From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Voici la session du samedi matin de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Des membres et des officiers de l'Église du monde entier se réunissent pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 188e Conférence Générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes très heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Russell M. Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous rappelons ce matin le décès de notre cher prophète associé et associé Thomas S. Monson le 2 janvier 2018 et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille. Dévoué à son appel pendant de longues années, il a été...
Nous rendons également hommage à Von Kitsch, des 70, qui est décédé subitement le 26 janvier 2018. Nous exprimons également notre amour et nos salutations respectueuses à sa famille. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Andrew Unsworth et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Douce est la tâche » et il va maintenant interpréter « Seigneur, merci pour le prophète ». Ensuite, Mervyn Arnold, des 70, fera la prière d'ouverture. Notre Père céleste qui est aux cieux. À cette occasion si sacrée, nous sommes vraiment reconnaissants d'un prophète de Dieu qui nous dirige, que nous aimons et que nous soutenons. Nous te prions spécialement de bénir frère Russell N. Nelson, qu'il puisse diriger ton Église. Par inspiration, nous prions pour sa famille et sa famille élargie. Nous te remercions, Père, à ce moment, de pouvoir nous souvenir de notre Sauveur durant cette merveilleuse période de Pâques. Nous sommes reconnaissants pour son exemple, spécialement la façon dont il a administré les choses durant son ministère. Nous te remercions pour ceux qu'il a bénis. Nous prions pour les veuves et pour les orphelins, pour ceux dans cette congrégation à travers le monde qui sont venus pour recevoir des réponses, qu'ils puissent ressentir ton amour et recevoir les réponses qu'ils recherchent. Nous te prions que chacun pourra écouter attentivement le prophète aujourd'hui et suivre sa direction. Combien nous t'aimons, Père, et combien nous apprécions tout ce que tu fais. Nous prions pour ces choses vraiment humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Brothers and sisters, President Nelson has asked that I handle the business.
Frères et sœurs, le président Nelson m'a demandé de traiter les affaires de l'Assemblée solennelle pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. C'est un moment très important pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le monde entier. Depuis le 10 octobre 1880, quand John Taylor, succédant à Brigham Young, a été soutenu comme prophète voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chacune de ces occasions a été appelée Assemblée solennelle du corps de l'Église pour exprimer la voix de l'Église. Nous allons voter par collège et groupe. Où que vous soyez, vous êtes invités à vous lever uniquement quand cela est demandé et à exprimer, en levant la main, si vous choisissez de soutenir les personnes dont les noms vont être présentés. Vous ne devez voter que lorsqu'il vous est demandé de vous lever. Les autorités générales se trouvant dans le tabernacle et l'Assembly Hall à Temple Square observeront le vote dans ces lieux. Dans les centres de pieux, un membre de la présidence de pieux observera le vote. Les personnes qui exprimeront des avis contraires devront prendre contact avec leur président de pieux. Nous allons maintenant commencer. À nouveau, veuillez vous lever et voter uniquement lorsqu'on vous demande de le faire. Nous demandons aux membres de la première présidence de bien vouloir se lever. Il est proposé que la première présidence soutienne Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Que les membres de la première présidence qui sont d'accord le manifestent. Il est proposé que la première présidence soutienne Dallin Harris Oaks comme premier conseiller et Henry Bennion Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église. Que les membres de la première présidence qui sont d'accord le manifestent. Il est proposé que la première présidence soutienne Dallin Harris Oaks comme président du Collège des Douze Apôtres et Melvin Russell Ballard comme président suppléant du Collège des Douze Apôtres. Que les membres de la première présidence qui sont d'accord le manifestent. Il est proposé que la première présidence soutienne, en tant que membre du Collège des Douze Apôtres, Russell Ballard, Jeffrey Holland, Dieter Uhrdorf, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson, Dale Renlund, Jerick Gunn et Tissis Wallace. Que les membres de la première présidence qui sont d'accord le manifestent. Il est proposé que la première présidence soutienne les conseillers dans la première présidence et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que les membres de la première présidence qui sont d'accord le manifestent. Nous demandons à la première présidence de bien vouloir se rasseoir. Nous invitons frère Gand et frère Wolf à prendre leur place au sein du Collège des Douze. Que les membres actuels du Collège des Douze Apôtres, y compris frère Gand et frère Suarez, veuillent bien se lever. Il est proposé au Collège des Douze Apôtres de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze, comme ils ont été présentés et soutenus par la première présidence. Que les membres du Collège des Douze Apôtres qui sont d'accord le manifestent. Vous pouvez vous rasseoir. Nous demandons aux 70 autorités générales et aux membres de l'épiscopat président de bien vouloir se lever. Il est proposé à tous les 70 autorités générales et aux membres de l'épiscopat président de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze, comme ils ont été présentés et soutenus par la première présidence. Que tous les 70 autorités générales et membres de l'épiscopat président qui sont d'accord le manifestent. Vous pouvez vous rasseoir. Nous demandons aux personnes suivantes de se lever, où qu'elles se trouvent dans le monde. Tous les 70 d'interrégion, les patriarches ordonnés, les grands prêtres et les anciens. Il est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont été présentés et soutenus. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Que ceux qui sont d'avis contraire le manifestent par le même signe. Vous pouvez vous rasseoir. Que tous les membres de la société de secours, c'est-à-dire toutes les femmes de 18 ans et plus, se lèvent. Il est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont déjà été présentés et soutenus. que toutes les sœurs qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Celles qui sont d'avis contraire peuvent le manifester. Vous pouvez vous rasseoir. Avec tous les adultes ayant eu l'occasion de soutenir la première présidence et le Collège des Douze, que tous les détenteurs de la prêtrise d'Aaron, c'est-à-dire tous les prêtres, instructeurs et diacres ordonnés, veuillent bien se lever. Il est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont déjà été présentés et soutenus. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Vous pouvez vous rasseoir. Que toutes les jeunes filles, âgées de 12 à 18 ans, veuillent bien se lever. Il est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont déjà été présentés et soutenus. Que toutes celles qui sont d'accord le manifestent en levant la main. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Vous pouvez vous rasseoir. Nous demandons maintenant que tous les membres, où qu'ils soient, se lèvent, y compris tous ceux qui se sont déjà levés. Il est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont été présentés et soutenus. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Vous pouvez tous vous rasseoir. Merci, mes frères et sœurs, de votre amour et de votre soutien. Nous traiterons les affaires de la conférence concernant les relèves et les soutiens des autres officiers de l'Église lors de la session du samedi après-midi. Le chœur va maintenant nous interpréter « We listen to a prophet's voice ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Russell Ballard, qui vient d'être soutenu comme président suppléant du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Brian Taylor et de Larry Echo Hawk des 70.
My brothers and sisters, we have just participated in a solemn assembly.
Nous venons de participer à une assemblée solennelle, une pratique qui remonte à la Bible. Lorsque l'Israël antique se réunissait pour sentir la présence du Seigneur et célébrer ses bénédictions, nous avons la chance de vivre à une époque où cette pratique d'autrefois a été rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Je vous exhorte à noter dans votre journal personnel ce que vous avez ressenti en cette occasion des plus sacrées à laquelle vous avez pris part. Récemment, nous avons dit au revoir à notre cher ami et prophète, Thomas Monson. Bien qu'il nous manque à tous, nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur d'avoir appelé un nouveau prophète, Russell M. Nelson, pour présider son Église. De manière ordonnée, nous avons maintenant ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église. C'est un cadeau précieux de Dieu. En soutenant le président Nelson à main levée, chacun de nous a témoigné devant Dieu et reconnu qu'il est le successeur légitime du président Monson. En levant la main, nous avons promis d'écouter sa voix lorsqu'il reçoit des instructions du Seigneur. Le Seigneur a dit, « Vous prêterez l'oreille à toutes ces paroles, celles du président de l'Église, et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. Je connais notre nouveau prophète président depuis plus de 60 ans. J'ai servi à ses côtés dans le Collège des 12 pendant 33 ans. Et je suis témoin que la main du Seigneur l'a préparé à devenir notre apôtre et prophète président pour administrer toutes les clés de la sainte prêtrise sur la terre. Puisse chacun de nous les soutenir, lui et ses conseillers, et suivre leurs instructions. Nous souhaitons également une bienvenue chaleur à frère Gang et à frère Suarez, en qualité de membre du Collège des 12 apôtres. Après la résurrection de Jésus, événement que nous célébrons en ce merveilleux week-end de Pâques, il est apparu à ses disciples et a dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Remarquez l'action en deux étapes. Dieu a envoyé son Fils. Le Fils envoie ses serviteurs, des hommes et des femmes mortels, accomplir leur œuvre. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que ces personnes appelées à accomplir l'œuvre du Seigneur ne sont pas humainement parfaites. Les Écritures relatent des incidents au sujet d'hommes et de femmes appelés de Dieu à accomplir une grande œuvre, de bons fils et filles de notre Père Céleste, appelés à remplir leurs responsabilités dans l'Église, s'efforçant de faire de leur mieux, tout en n'étant pas encore parfaits. C'est vrai aussi de nous. Étant donné la réalité de nos faiblesses et imperfections humaines, comment allons-nous agir et nous soutenir les uns les autres? Cela commence par la foi réelle et sincère au Seigneur Jésus-Christ. La foi au Sauveur est le premier principe de la doctrine et de l'Évangile du Christ. Il y a plusieurs années, je me trouvais en Terre Sainte. En passant devant un plan de Sénévé, le directeur du centre d'études de l'Université Brigham Young à Jérusalem m'a demandé si j'avais déjà vu un grain de Sénévé. Ce n'était pas le cas. Alors nous nous sommes arrêtés. Il m'a montré les graines d'un plant. Elles étaient étonnamment petites. Je me suis ensuite souvenu des enseignements de Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de Sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » rien ne vous serait impossible. Si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, le Seigneur peut nous aider à déplacer les montagnes de découragement et de doute dans les tâches qui nous attendent lorsque nous servons les enfants de Dieu, dont les membres de notre famille, les membres de l'Église et les personnes qui ne le sont pas encore. Frères et sœurs, la vie peut être remplie de foi, de joie, de bonheur, d'espérance et d'amour si nous exerçons une minuscule quantité de vraie foi au Christ, un grain de sénévé de foi. George Albert Smith s'est souvenu de conseils que Joseph Smith, le prophète, lui avait donnés. Il me dit, et me décourager, quelles que soient les difficultés qui pourraient m'assaillir. Si j'étais plongé au plus profond d'un puits de la Nouvelle-Écosse et que toutes les montagnes rocheuses étaient empilées au-dessus de moi, je ne devrais pas me décourager, mais persévérer, exercer ma foi et garder courage. Et je finirais par sortir en haut de la pile. Nous devrions nous souvenir de la déclaration de Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette connaissance est un autre cadeau précieux de Dieu. Il y en a bien d'autres. J'en cite maintenant certains. Le cadeau du jour du sabbat, de la Sainte Cène, du service et celui sans égal de notre Sauveur que Dieu nous a offert. Le pouvoir du jour de sabbat est de connaître à l'Église et à la maison le délice, la joie et la chaleur de sentir l'Esprit du Seigneur sans la moindre distraction. Tant de gens se permettent de vivre presque en ligne avec leurs appareils électroniques. Des écrans illuminent leur visage jour et nuit. Des écouteurs dans les oreilles les empêchent d'entendre le murmure doux et léger de l'esprit. Si nous ne trouvons pas le temps de nous déboucher les oreilles, nous risquons de rater des occasions d'entendre la voix de celui qui a dit « Soyez calme et sachez que je suis Dieu ». Il n'y a rien de mal à tirer parti des progrès technologiques inspirés par le Seigneur, mais nous devons en faire usage avec sagesse. Souvenez-vous du cadeau du jour du sabbat. La bénédiction de recevoir la Sainte Cène ne doit jamais devenir une routine ou simplement quelque chose que nous faisons lors de la réunion de Sainte Cène. Nous n'avons que 70 minutes dans toute la semaine pour faire une pause et trouver plus de paix, de joie et de bonheur. En prenant la Sainte Cène et en renouvelant nos alliances, nous faisons signe au Seigneur qu'en effet, nous nous souvenons toujours de lui. Son expiation est un cadeau de la grâce de Dieu. L'honneur de servir les enfants de notre Père Céleste est une occasion de suivre l'exemple de son Fils bien-aimé en se servant les uns les autres. Certains services sont officiels au sein de notre famille, de nos appels dans l'Église et des organisations caritatives de la collectivité. Les membres de l'Église, hommes et femmes, ne doivent pas hésiter, s'ils le désirent, à se présenter aux élections, à tous les niveaux de gouvernement où qu'ils vivent. Notre voix est indispensable aujourd'hui. Elle est importante dans nos écoles, nos villes et nos pays. Dans les démocraties, il est du devoir des membres de voter pour des hommes et des femmes honorables qui sont disposés à servir. De nombreuses occasions de servir sont officieuses. Elles ne sont pas attribuées et se présentent lorsque nous tendons la main en personne que nous rencontrons pendant le voyage de la vie. Rappelez-vous que Jésus enseignait au docteur de la loi, à l'aide de l'exemple du bon samaritain, que nous devons aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Le service nous permet de comprendre la vie et le ministère du Christ. Il est venu servir, comme les Écritures l'enseignent. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est peut-être Pierre qui a décrit le mieux le ministère du Sauveur dans la condition mortelle en 8 mots, quand il a dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le Seigneur Jésus-Christ est le plus précieux de tous les cadeaux de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Néphi a mis en relief l'importance de notre Sauveur quand il a déclaré, « Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Nous devons garder le Christ au centre de notre vie, en tout temps et en tout lieu. Nous devons nous rappeler que c'est son nom qui figure sur nos lieux de culte. Nous nous faisons baptiser en son nom. Nous sommes confirmés, ordonnés, dotés, et notre mariage est scellé en son nom. Nous prenons la Sainte Cène et promettons de prendre son nom sur nous et de devenir de véritables chrétiens. Enfin, il nous est demandé dans la prière de Sainte Cène de toujours nous souvenir de lui. Demain, en nous préparant pour le dimanche de Pâques, souvenons-nous de la suprématie du Christ. Il est le juge juste, notre avocat fidèle, notre rédempteur béni, notre bon berger, le Messie promis, notre véritable ami, et bien plus encore. Il est effectivement un cadeau très précieux que notre Père Céleste nous fait. Notre vie de disciple est jalonnée de nombreuses exigences, préoccupations et responsabilités. Cependant, certaines activités doivent toujours être au cœur de notre appartenance à l'Église. Le Seigneur commande, « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai désigné, va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes, et affermit le genou qui chancelle. » C'est là l'Église en action. C'est là la religion pure. C'est là le véritable sens de l'Évangile. Lorsque nous secourons, édifions et affermissons les personnes dans le besoin spirituel et temporel. Pour cela, nous devons leur rendre visite et les aider afin que leur témoignage de foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ et son expiation soit ancré dans leur cœur. Puisse le Seigneur nous aider à chérir notre appartenance à son Église rétablie, à tous ces cadeaux qu'il nous a faits. Je prie pour que nous soyons remplis d'amour pour tous les enfants de notre Père Céleste et que nous voyons leurs besoins et soyons disposés à répondre à leurs questions et à leurs préoccupations au sujet de l'Évangile, de manière claire et aimable, afin que la compréhension et l'appréciation mutuelle grandissent. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur. Ce qui va nous être enseigné lors de cette conférence générale nous vient par inspiration d'apôtres et de prophètes, d'autorités générales et de sœurs dirigeantes qui sont des officiers généraux de l'Église. Je prie pour que la joie et la paix du Seigneur demeure en chacun. Mon humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous te remercions, Père, pour un prophète. Je suis allé récemment avec ma mère dans notre église en vieille pierre, attiré par les voix d'enfants venant de la même salle de primaire dans laquelle je me trouvais il y a des décennies de cela. Je me suis mis au fond de la salle et j'ai observé les instructrices attentionnées enseigner le thème de cette année « Je suis enfant de Dieu ». J'ai souri en repensant à mes instructrices patientes et aimantes qui, pendant la période des chants, regardaient souvent le petit garçon turbulent que j'étais, assis au bout du banc comme pour dire « Est-il vraiment un enfant de Dieu ?» Et qui l'a mis ici ? J'invite chacun de nous à ouvrir son cœur au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les paroles de Boyd K. Packer sont claires et précieuses. Vous êtes un enfant de Dieu. Il est le Père de votre esprit. Spirituellement, vous êtes de noble naissance. Vous êtes la postérité du roi des cieux. Gravez cette vérité dans votre esprit et conservez-la. Quel que soit le nombre de générations de vos ancêtres mortels, quelle que soit la race ou le peuple que vous représentez, l'arbre généalogique de votre esprit peut s'écrire sur une seule ligne. Vous êtes un enfant de Dieu. Brigham Young a fait la description suivante. Quand vous verrez notre Père, vous verrez un être que vous connaissez depuis longtemps. Il vous tendra les bras et vous serez prêt à vous y laisser tomber et à l'embrasser. Moïse découvrit son héritage divin en parlant face à face avec le Seigneur. À la suite de cette expérience, Satan vint le tenter, avec l'intention subtile mais vicieuse, de déformer, voire détruire son identité. Il dit, « Moïse, fils de l'homme, adore-moi. » Et Moïse regarda Satan et dit, « Qui es-tu ? Car voici, je suis un fils de Dieu. » Cette grande guerre pour notre identité divine fait rage, car l'arsenal proliférant de Satan vise à détruire la connaissance que nous avons de notre lien filial avec Dieu et notre foi en celui-ci. Heureusement, nous avons reçu dès le début une compréhension claire de notre véritable identité. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et des prophètes vivants proclament, « Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. » Connaître ces vérités avec certitude nous aide à surmonter les épreuves, les difficultés et les afflictions de toutes sortes. Lorsqu'on a demandé à un apôtre du Seigneur comment faire pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés personnelles, celui-ci a répondu « Enseignez-leur leur identité et leur but. » Ces vérités profondes ont changé la vie de mon amie Jen, qui, quand elle était adolescente, a causé un grave accident de voiture. Bien qu'ayant subi un traumatisme physique grave, elle ressentit une douleur encore plus vive du fait que l'autre conductrice avait perdu la vie. Elle raconte, « Un enfant avait perdu sa mère et c'était de ma faute. » Alors que quelques jours auparavant, elle s'était levée avec sa classe et avait récité « Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime. » Elle se demandait à présent, « Comment peut-il m'aimer ?» Elle raconte, « La douleur physique est passée, mais je pensais ne jamais pouvoir guérir de mes blessures émotionnelles et spirituelles. » Pour continuer à vivre, Jen a caché ses sentiments au plus profond d'elle-même. Elle est devenue distante et insensible. Au bout d'un an, quand elle a enfin été capable de parler de l'accident, une psychologue inspirée l'a invitée à écrire la phrase « Je suis enfant de Dieu » et elle a répété 10 fois par jour. Jen raconte « Écrire la phrase a été facile, mais je ne pouvais pas la prononcer. Cela la rendait réelle et je ne croyais pas que Dieu voulait véritablement de moi pour enfant. Je me recroquevillais sur moi-même et je pleurais. » Au bout de quelques mois, Jen a enfin réussi à s'acquitter de sa tâche chaque jour. Elle explique, « J'ai épanché mon âme en prière à Dieu. J'ai alors commencé à croire les paroles que je prononçais. Cette croyance a permis au Sauveur de commencer à guérir son âme blessée. Le livre de Mormon lui a permis de trouver du réconfort et du courage dans l'assurance de son expiation. » Jen conclut, « Le Christ connaît mes souffrances, mon chagrin et ma culpabilité. J'ai ressenti l'amour pur de Dieu. Je n'avais jamais rien vécu d'aussi fort. Savoir que je suis enfant de Dieu est la connaissance la plus précieuse que je possède. » Comment chacun de nous peut-il bénéficier du pouvoir que nous apporte la compréhension de notre identité divine? Pour commencer, nous devons nous efforcer de connaître Dieu, notre Père. Russell M. Nelson a témoigné. Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'un enfant de Dieu cherche à mieux le connaître, lui et son Fils bien-aimé. Le fait de connaître Jésus-Christ et de le suivre nous permet de connaître le Père. Étant l'empreinte de son Père, Jésus enseignait qu'il ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Chaque parole et chaque acte du Christ révèle la véritable nature de Dieu et notre relation avec lui. Jeffrey R. Holland a enseigné, « Alors que du sang perlait de tous les pores de son corps, un cri d'angoisse aux lèvres, le Christ s'est adressé à celui auquel il s'était toujours adressé, son Père. Abba, a-t-il dit, Papa. » Tout comme Jésus a sincèrement fait appel à son Père à Gethsémané, de même en 1820, le jeune Joseph Smith a fait appel à Dieu par la prière dans le bosquet sacré. Après avoir lu dans la Bible, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Joseph s'est isolé pour prier. » Il a écrit, « Je m'agenouillais, me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière. Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom et dit, en me montrant l'autre, « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Si nous suivons l'exemple du Sauveur et du prophète Joseph en recherchant sincèrement Dieu, nous comprendrons d'une manière très réelle, comme Jen, que notre Père nous connaît par notre nom et que nous sommes ses enfants. Jeune mère, vous qui vous sentez souvent dépassée et noyée dans vos efforts pour élever une génération qui résiste au péché, ne sous-estimez jamais votre rôle essentiel dans le plan de Dieu. Dans les moments de stress, par exemple, lorsque vous courez après de jeunes enfants et que l'odeur de brûlé qui se dégage de la cuisine vous informe que le dîner que vous avez préparé avec amour est maintenant un holocauste, sachez que Dieu sanctifie vos journées les plus difficiles. Ces paroles apaisantes, « Ne crains rien car je suis avec toi » vous rassurent. Nous saluons vos efforts pour concrétiser l'espoir de Joy D. Jones qui a déclaré « Nos enfants méritent de comprendre leur identité divine. » J'invite chacun de nous à chercher à connaître Dieu et son Fils bien-aimé. Le président Nelson a affirmé « C'est dans le livre de Mormon que ces vérités sont enseignées le plus clairement et le plus puissamment. Ouvrez ces pages et vous apprendrez que Dieu fait tout pour notre bien-être et notre bonheur. » qu'il est miséricordieux, plein de grâce, lent à la colère, longanime et plein de bonté, et que tous sont pareils pour lui. Si vous êtes blessé, perdu, effrayé, contrarié, triste, affamé ou désespérément seul face aux situations extrêmes de la vie, ouvrez le livre de Mormon et vous apprendrez que Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Ce n'est pas possible, c'est contraire à sa personnalité. Lorsque nous connaissons notre Père, cela change tout. Cela change surtout notre cœur quand son doux esprit nous confirme notre véritable identité et notre grande valeur à ses yeux. Dieu marche avec nous sur le chemin des alliances quand nous cherchons à le connaître par la prière, l'étude des Écritures et nos efforts pour lui obéir. J'aime Dieu, le Tout-Puissant, qui pleure avec nous quand nous avons du chagrin, qui nous châtie avec patience pour nos iniquités et qui se réjouit quand nous nous efforçons de délaisser tous nos péchés pour le connaître. Je l'adore, lui, le Père des orphelins, l'ami des délaissés. Avec reconnaissance, je témoigne que je suis venu à connaître Dieu, mon Père. Et je témoigne des perfections, des attributs et de l'excellence de sa personnalité. Je prie pour que chacun de nous comprenne réellement et chérisse son noble lignage d'enfant de Dieu, en parvenant à le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le premier jour de la semaine,
elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Demain, jour du sabbat de Pâques, nous nous souviendrons d'une manière particulière de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, nous ressusciterons, comme lui, pour vivre à jamais. Grâce au miracle de l'expiation sacrée de Jésus-Christ, nous pouvons également recevoir le don du pardon de nos péchés et de nos fautes. Si nous acceptons la possibilité et la responsabilité de nous repentir, et en recevant les ordonnances nécessaires, en respectant nos alliances, et en obéissant aux commandements, nous pourrons obtenir la vie éternelle et l'exaltation. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur le pardon, don essentiel et précieux qui nous est offert par notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Une nuit de décembre 1982, alors que nous étions chez nous à Pocatello, en Idaho, ma femme, Terry et moi, avons été réveillés par un coup de téléphone. Lorsque j'ai décroché, je n'ai entendu que des sanglots. Finalement, la voix de ma sœur a dit avec beaucoup de difficulté, « Tommy est mort. » Un conducteur âgé de 20 ans, ivre et roulant à plus de 130 km à l'heure dans la banlieue de Denver, au Colorado, a imprudemment grillé un feu rouge. Il a alors violemment percuté la voiture conduite par mon frère cadet Tommy, le tuant, ainsi que sa femme Joan, sur le coup. Ils rentraient chez eux retrouver leur petite fille, après être allés à une fête de Noël. Ma femme et moi avons immédiatement pris l'avion pour Denver et nous sommes rendus à la morgue. Nous nous sommes réunis avec mes parents et mes frères et sœurs, et avons pleuré la perte de nos chers Tommy et Joan. Nous les avions perdus à cause d'un acte criminel insensé. Nous avions le cœur brisé, et j'ai commencé à sentir monter en moi de la colère à l'égard du jeune délinquant. Tommy était juriste au ministère de la Justice des États-Unis et était en voie de devenir un grand avocat de la protection des terres et des ressources naturelles amérindiennes dans les années à venir. Après quelque temps, une audience de jugement a eu lieu et le jeune a été accusé d'homicide involontaire causé par accident de la route. Encore dans le deuil et rempli de chagrin, mes parents et ma sœur aînée Cathy ont assisté à l'audience. Les parents du conducteur ivre étaient là aussi. Et une fois l'audience terminée, ils sont restés assis sur un banc et ont pleuré. Mes parents et ma sœur étaient assis non loin et s'efforçaient de maîtriser leurs émotions. Au bout d'un moment, ils se sont levés pour aller voir les parents du conducteur et leur ont adressé des paroles de réconfort et de pardon. Les hommes se sont serrés la main. Les femmes se sont tenues la main. Tous ont éprouvé un profond chagrin et versé des larmes, se rendant compte que leurs deux familles avaient immensément souffert. Maman, papa et Cathy ont ouvert la voie par leur force tranquille et leur courage, et ont montré à notre famille,
À quoi ressemble le pardon? Ce pardon qu'ils ont accordé généreusement à ce moment-là m'a adouci le cœur et ouvert le chemin de la guérison. Avec le temps, j'ai appris à avoir un cœur disposé à pardonner. Ce n'est qu'avec l'aide du prince de la paix que mon douloureux fardeau m'a été ôté. Je ressentirai toujours un manque profond en pensant à Tommy et Joanne. Mais le pardon me permet à présent de me souvenir d'eux avec une joie sans entrave. Et je sais que nous serons de nouveau ensemble, en famille. Je ne suis pas en train de suggérer que nous approuvons les conduites illégales. Nous savons très bien que chaque personne sera tenue pour responsable de ses actes criminels et de ses manquements à la loi. Cependant, nous savons aussi qu'en tant que fils et filles de Dieu, qui suivent les enseignements de Jésus-Christ, nous devons pardonner aux autres, même lorsque ceux-ci ne semblent pas mériter notre pardon. Le Sauveur a enseigné, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous pouvons tous recevoir une paix indicible et devenir partenaires de notre Sauveur quand nous apprenons à pardonner aux hommes leurs offenses sans retenue. Ce partenariat apporte le pouvoir du Sauveur dans notre vie de façon manifeste et inoubliable. L'apôtre Paul a enseigné, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le Seigneur lui-même a déclaré, « C'est pourquoi je vous dis que vous devez vous pardonner les uns aux autres. Car celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses est condamné devant le Seigneur, car c'est en lui que reste le plus grand péché. Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Les enseignements de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ sont clairs. Le pécheur doit être disposé à pardonner aux autres s'il espère lui-même obtenir le pardon. Frères et sœurs, y a-t-il des personnes dans notre vie qui nous ont blessés? Nourrissons-nous des sentiments de rancœur et de colère que nous croyons pleinement justifiés? Permettons-nous à l'orgueil de nous empêcher de pardonner et d'oublier. Je nous invite tous à pardonner complètement et à laisser la guérison opérer de l'intérieur. Et même si le pardon ne survient pas dès aujourd'hui, sachez que si nous le désirons et y travaillons, il viendra, tout comme ce fut le cas pour moi après la mort de mon frère. Rappelez-vous aussi qu'un des éléments essentiels du pardon implique de se pardonner à soi-même. Celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Je supplie chacun de vous aujourd'hui de se souvenir de l'exemple de Jésus-Christ et de le suivre. Sur la croix du Golgotha, dans son angoisse, il a prononcé ces mots. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. En ayant un esprit de pardon et en agissant dans ce sens, comme l'ont fait mes parents et ma sœur aînée, nous pourrons voir s'accomplir la promesse du Sauveur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je témoigne que cette paix se manifestera dans notre vie si nous prêtons attention aux enseignements de Jésus-Christ et suivons son exemple en pardonnant aux autres. Je promets que si nous pardonnons, le Sauveur nous fortifiera et son pouvoir et sa joie se déverseront dans notre vie. Le sépulcre est vide. Le Christ est vivant. Je le connais. Je l'aime. Je suis reconnaissant de sa grâce, qui est le pouvoir fortifiant, qui suffit à guérir toute chose, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Saint en avant, armée de foi en Christ », le numéro 40 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous écouterons Gary Stevenson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Lynn Robbins de la présidence des 70. Après son discours, le chœur chantera « Raconte-moi les histoires de Jésus ».
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
J'ai prié avec ferveur pour que le Saint-Esprit soit avec chacun de nous aujourd'hui, en cette occasion sacrée. Le soutien du 17e prophète de cette dispensation dans cette assemblée solennelle à laquelle nous avons tous participé. Il restera un moment marquant. Tandis que je cherchais l'inspiration pour connaître le thème du discours que le Seigneur voulait que j'aborde aujourd'hui, je me suis souvenu d'une conversation récente que j'ai eue avec la nouvelle première présidence. Au cours de cette conversation, l'un des conseillers a dit en substance, « J'espère vraiment que les membres de l'Église pourront comprendre la portée de l'appel de Russell M. Nelson comme notre nouveau prophète, et l'importance et le caractère sacré de l'assemblée solennelle qui aura lieu lors de la conférence générale. » Il a ajouté, « La dernière a eu lieu il y a 10 ans, et de nombreux membres de l'Église, en particulier les jeunes, ne s'en souviennent pas ou n'y ont encore jamais participé. Cela m'a fait penser à certaines expériences que j'ai eues. Le premier prophète dont je me souviens est David O. McKay. J'avais 14 ans quand il est décédé. Je me souviens du sentiment de perte qui a accompagné son décès et des larmes dans les yeux de ma mère. Je me rappelle que les paroles « Veuille bénir le président McKay » sortaient si naturellement de ma bouche pendant mes prières que si parfois je ne faisais pas attention, je les prononçais encore, même après son décès. Je me demandais si mon esprit et mon cœur allaient avoir les mêmes sentiments et la même conviction pour les prophètes qui lui succéderaient. Mais un peu comme les parents qui aiment chacun de leurs enfants, j'ai ressenti pour Joseph Fielding Smith, qui a succédé au président McKay, de l'amour, un lien et un témoignage, comme pour chacun des prophètes qui ont suivi, Harold Billy, Spencer Kimball, Ezra Taft Benson, Howard Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas Monson et aujourd'hui, Russell M. Nelson. J'ai soutenu pleinement chaque prophète en levant la main et de tout mon cœur. Après le décès de chacun de nos prophètes bien-aimés, il est tout simplement naturel de ressentir leur perte et d'avoir des sentiments de tristesse. Mais notre tristesse est adoucie par la joie et l'espoir qui nous viennent de l'une des grandes bénédictions du rétablissement, l'appel et le soutien d'un prophète vivant sur terre. Pour ce faire, je vais parler de ce processus divin que nous avons observé au cours des 90 derniers jours. Je vais le décrire en 4 parties. Premièrement, le décès de notre prophète et la dissolution de la première présidence. Deuxièmement, la période précédant la réorganisation de la nouvelle première présidence. Troisièmement, l'appel du nouveau prophète. Et quatrièmement, le soutien du nouveau prophète et de la nouvelle première présidence lors de l'assemblée solennelle. Le 2 janvier 2018, Thomas Monson, notre cher prophète, est passé de l'autre côté du voile. Il aura pour toujours une place dans notre cœur. Les sentiments qu'exprimait Henry B. Eyring aux funérailles du président Monson décrivent succinctement les nôtres. Je cite, « La marque de sa vie, comme celle du Sauveur, a été son souci de tendre la main aux pauvres, aux malades et à tous dans le monde entier. » Spencer Kimball a expliqué, je cite, « Tandis qu'une étoile tombe au-delà de l'horizon, une autre entre dans le paysage et la mort engendre la vie. L'œuvre du Seigneur est sans fin. Même lorsqu'un grand dirigeant meurt, l'Église ne reste pas un seul instant sans gouvernement grâce à la bienveillante providence qui a donné à son royaume la continuité et la perpétuité. Comme c'est déjà arrivé, avant cette dispensation, un peuple a fermé une tombe avec révérence, a séché ses larmes et a tourné son cœur et son regard vers l'avenir. » Fin de citation. On appelle interrègne apostolique la période entre le décès d'un prophète et la réorganisation de la première présidence. Pendant cette période, le Collège des 12, sous la direction du président du Collège, détient conjointement les clés de la direction de l'Église. Joseph F. Smith a enseigné, il y a toujours un chef dans l'Église, et si la présidence de l'Église est enlevée par la mort ou pour une autre raison, alors le chef de l'Église suivant est le Collège des 12 apôtres, jusqu'à ce que soit de nouveau organisée une présidence. Le dernier interrègne apostolique a commencé avec le décès du président Monson le mardi 2 janvier et a pris fin 12 jours plus tard, le dimanche 14 janvier. Le matin de ce jour du sabbat, le Collège des 12 apôtres s'est réuni dans la salle haute du temple de Salt Lake City dans le jeûne et la prière, sous la présidence de Russell M. Nelson, le doyen des apôtres, et président du Collège des 12. Lors de cette réunion sacrée et mémorable, suivant un précédent bien établi dans l'unité et à l'unanimité. Les frères, assis par ordre d'ancienneté dans l'apostolat en un demi-cercle de 13 chaises, ont levé la main pour soutenir l'organisation d'une première présidence et ensuite pour soutenir Russell Marion Nelson comme président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après ce soutien, les membres du Collège des Douze se sont mis en cercle autour du président Nelson et ont placé leurs mains sur sa tête pour l'ordonner et le mettre à part, et le doyen des apôtres suivant a prononcé l'ordination. Le président Nelson a alors nommé ses conseillers, Dallin Harris Oaks et Henry Benyon Eyring. Frère Oaks étant le président du Collège des Douze Apôtres, et Melvin Russell Ballard, le président suppléant de ce collège. Après des votes de soutien semblables, le président Nelson a mis à part chacun de ses frères à son office respectif. Ce fut une expérience profondément sacrée, accompagnée d'un déversement de l'esprit. Je vous témoigne avec une certitude absolue que la volonté du Seigneur, pour laquelle nous avons prié avec ardeur, s'est manifestée avec force au cours des activités et des événements de cette journée. Avec l'ordination du président Nelson et la réorganisation de la première présidence, l'interrègne apostolique a pris fin et la première présidence nouvellement constituée a commencé à se mettre en action sans qu'il y ait même une seconde d'interruption dans la direction du royaume du Seigneur sur la terre. Ce matin, ce processus divin a atteint son apogée conformément à cette instruction scripturaire indiquée dans Doctrine et Alliance. Car tout doit se faire avec ordre et par consentement commun dans l'Église, par la prière de la foi. Et trois grands prêtres présidents, soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église, forment le collège de la présidence de l'Église. David B. Haight avait décrit une précédente occurrence de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Je cite, « Nous sommes les participants et les témoins d'une cérémonie très sacrée, une assemblée solennelle pour traiter de choses célestes. Comme dans le passé, les saints du monde entier ont jeûné et prié longuement pour recevoir un déversement de l'Esprit du Seigneur qui est si perceptible ce matin lors de cette occasion. » Une assemblée solennelle, comme son nom l'indique, est une cérémonie sacrée, sobre et empreinte de recueillement, au cours de laquelle les saints se réunissent sous la direction de la première présidence. Fin de citation. Frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir et même crier Hosanna, car le porte-parole du Seigneur, un prophète de Dieu, est en place, et le Seigneur se réjouit que son œuvre s'accomplisse selon sa volonté divine. Ce processus divinement décrété aboutit à l'appel d'un autre prophète de Dieu. Le président Monson fut l'un des grands, plus grands habitants de la Terre. Il en est de même du président Nelson. Il a été très bien préparé, spécialement formé par le Seigneur pour nous diriger à cette époque. C'est une grande bénédiction que Russell M. Nelson, notre cher président, soit notre prophète aimant et dévoué, le 17e président de l'Église en cette dernière dispensation. Le président Nelson est véritablement un homme remarquable. J'ai eu l'honneur de servir avec lui au sein du Collège des Douze, tandis qu'il en était le président pendant un peu plus de 2 ans. J'ai voyagé avec lui et je m'émerveille de son énergie, car il faut avancer rapidement pour arriver à le suivre. Au cours de sa vie, il s'est rendu dans 133 pays. Il s'intéresse à tous, jeunes et moins jeunes. Il semble connaître tout le monde et être particulièrement doué pour retenir les noms. Chaque personne qui le connaît a l'impression d'être sa préférée. Il en est de même pour chacun de nous, grâce à son amour et à son intérêt sincère pour tous. J'ai fréquenté le président Nelson principalement dans nos fonctions ecclésiastiques. Toutefois, j'ai aussi découvert la vie professionnelle qu'il a eue avant d'être appelé autorité générale. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le président Nelson était un chirurgien cardiaque de renommée mondiale et, tôt dans sa carrière médicale, un pionnier de la conception de la machine cœur-poumon. En 1951, il était avec l'équipe de recherche qui a accompli la première opération à cœur ouvert sur un homme à l'aide d'un pontage cœur-poumon. Il a effectué une opération du cœur sur le président Kimball, peu de temps avant qu'il devienne prophète. Fait intéressant, lorsqu'il était appelé au Collège des 12, il y a 34 ans, il a mis fin à sa carrière professionnelle, passé à renforcer et réparer des cœurs, et a commencé un ministère apostolique, consacré à fortifier, réparer les cœurs de centaines de milliers de personnes dans le monde entier, chacune ayant été édifiée par ses paroles et ses actes, empreint de sagesse et inspiré par un esprit de service et d'amour, un cœur semblable à celui du Christ. Quand j'imagine une personne ayant un cœur chrétien, j'ai l'image du président Nelson. Je n'ai rencontré personne qui personnifie davantage cette vertu que lui. Cela a été extrêmement formateur de pouvoir observer personnellement les manifestations du cœur chrétien du président Nelson. En octobre 2015, quelques semaines après mon appel au Collège des 12, j'ai eu l'occasion d'avoir un aperçu rapproché de ce qu'avait été la vie professionnelle du président Nelson. J'ai été invité à assister à une manifestation où on lui a décerné une distinction dans le domaine de la chirurgie cardio-thoracique. En entrant dans la salle, j'étais surpris de voir le grand nombre de professionnels présents pour honorer et saluer le travail que le président Nelson avait accompli de nombreuses années auparavant en tant que médecin et chirurgien. Au cours de cette soirée, un grand nombre de professionnels ont pris la parole pour exprimer leur respect, leur admiration pour la contribution exceptionnelle du président Nelson dans sa spécialité médicale. Aussi impressionnant que chaque intervenant ait été en décrivant les divers accomplissements du président Nelson, j'ai été plus fasciné encore par la conversation que j'ai eue avec un homme assis à côté de moi. Il ne savait pas qui j'étais, mais il connaissait le président Nelson en tant que Dr. Nelson, directeur du programme de spécialisation en chirurgie thoracique d'une université de médecine en 1955. Cet homme était l'un de ses anciens élèves. Il a évoqué de nombreux souvenirs. Le plus intéressant fut sa description du style d'enseignement du président Nelson, qui, selon ses dires, avait contribué pour une grande part à sa notoriété. Il expliquait qu'une grande partie des cours des étudiants en chirurgie cardiaque avaient lieu dans la salle d'opération. Là, ils observaient et effectuaient des opérations chirurgicales sous la supervision des professeurs, comme dans un cours en laboratoire. Il expliquait que l'ambiance des salles d'opération dirigées par certains chirurgiens universitaires était chaotique, compétitive, stressante, voire égoïste. Cet homme a décrit cela comme un environnement difficile, parfois même humiliant. En conséquence, les chirurgiens résidents avaient même l'impression que leur carrière était en jeu. Cet homme a ensuite parlé du cadre particulier de la salle d'opération du président Nelson. C'était un cadre paisible, calme, empreint de dignité. Les résidents internes étaient traités avec un profond respect. Cependant, après avoir fait la démonstration d'une procédure chirurgicale, le docteur Nelson attendait un niveau d'exécution des plus élevés de la part des internes. L'homme a aussi expliqué comment, grâce au docteur Nelson, ses internes devenaient les meilleurs chirurgiens et obtenaient les meilleurs taux de réussite pour les patients. Ça ne me surprend pas du tout, c'est ce que j'observais personnellement et qui vraiment a été une bénédiction pour moi au sein du Collège des 12. J'ai l'impression d'avoir été, dans un sens, l'un de ses internes en formation. Le président Nelson a une manière exceptionnelle d'instruire les gens et de les corriger de façon positive, respectueuse et édifiante. Il est la personnification d'un cœur chrétien et un exemple pour tous. Nous tous, grâce à lui, nous apprenons que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, notre conduite et notre cœur peuvent se conformer aux principes de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons maintenant la grande bénédiction de soutenir notre prophète, Russell M. Nelson. Tout au long de sa vie, il a magnifié ses nombreux rôles en tant qu'étudiant, père, professeur, mari, médecin, dirigeant de la prêtrise, grand-père et apôtre. Il remplissait ses rôles alors et continue de le faire avec le cœur d'un prophète. Frères et sœurs, ce dont nous avons été témoins et acteurs aujourd'hui, à savoir une assemblée solennelle, me conduit au témoignage que j'ai que le président Nelson est le porte-parole vivant du Seigneur pour toute l'humanité. J'ajoute également mon témoignage de Dieu le Père, de Jésus-Christ, et son rôle de sauveur et de rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Mistakes are a fact of life.
Les erreurs font partie de la vie. Il est pratiquement impossible d'apprendre à bien jouer du piano sans faire de milliers, voire un million d'erreurs. Pour apprendre une langue étrangère, on doit subir l'embarras de faire des milliers, voire un million d'erreurs. Même les plus grands sportifs au monde ne cessent jamais de faire des erreurs. Il a été dit, le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais il consiste à passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Après avoir inventé l'ampoule électrique, Thomas Edison a dit, « Je n'ai pas échoué mille fois. L'ampoule électrique a été inventée en mille étapes. » C.S. Lewis a appelé les échecs des panneaux indicateurs sur la route du succès. Il est à espérer que chacune de nos erreurs deviendra une leçon de sagesse qui transformera les pierres d'achoppement en tremplin. La foi inébranlable de Néphi l'a aidé à aller d'échec en échec jusqu'à ce qu'il obtienne finalement les plaques d'airain. Il a fallu à Moïse 10 tentatives avant de finalement réussir à fuir d'Égypte avec les Israélites. Nous pouvons nous demander, si Néphi et Moïse étaient en mission pour le Seigneur, pourquoi n'est-il pas intervenu pour les aider à réussir du premier coup? Pourquoi a-t-il permis qu'eux et nous aussi, nous échouions dans nos tentatives pour atteindre notre but? Il y a de nombreuses réponses importantes à cette question. En voici quelques-unes. Tout d'abord, le Seigneur sait que ces choses nous donneront de l'expérience et seront pour notre bien. Deuxièmement, pour nous permettre de goûter à la mer afin d'apprendre à apprécier le bon. Troisièmement, pour prouver que la victoire appartient à l'Éternel et que c'est seulement par sa grâce que nous pouvons accomplir son œuvre et devenir comme lui. Quatrièmement, pour nous aider à cultiver des dizaines d'attributs chrétiens qui ne peuvent être raffinés que grâce à l'opposition et dans la fournaise de l'adversité. Ainsi, notre vie est remplie d'écueils et d'imperfections. Nous sommes tous reconnaissants d'avoir des secondes chances. En 1970, alors que je venais d'entrer en première année à BYU, je me suis inscrit à un nouveau cours sur les rudiments de la physique que Jay Baliff, professeur renommé, enseignait. À la fin de chaque module du cours, il nous faisait passer un examen. Si un étudiant obtenait un C et voulait une meilleure note, le professeur Baliff lui permettait de passer un examen modifié sur les mêmes sujets. Si l'étudiant obtenait un B la deuxième fois et n'était toujours pas satisfait, il pouvait repasser l'examen une troisième fois, une quatrième, etc. En me permettant de nombreuses deuxièmes chances, il m'a aidé à exceller et à finalement avoir un A dans cette matière. C'était un professeur exceptionnellement sage qui incitait ses étudiants à continuer d'essayer, à ne pas craindre l'échec ni à le considérer comme une tragédie, mais comme un formateur auprès de qui tirer des leçons. J'ai récemment téléphoné à ce grand homme, 47 ans après avoir suivi son cours de physique. Je lui ai demandé pourquoi il permettait à ses étudiants d'innombrables tentatives pour améliorer leurs notes. Il m'a dit « Je voulais être du côté des étudiants ». Nous sommes reconnaissants pour les deuxièmes chances, suivant les erreurs ou les échecs de l'intellect. Et nous sommes émerveillés de la grâce du Sauveur qui nous donne des deuxièmes chances pour surmonter les péchés, les échecs du cœur. Personne n'est plus de notre côté que le Sauveur. Il nous permet de passer et de repasser ces examens. Pour devenir comme lui, il nous faudra d'innombrables deuxièmes chances dans nos combats quotidiens contre l'homme naturel. Par exemple, entre autres, dans la maîtrise de nos appétits, l'apprentissage de la patience et du pardon, la victoire sur la paresse et les péchés de mission, pour n'en nommer que quelques-uns. Si l'erreur est humaine, combien d'échecs nous faudra-t-il jusqu'à ce que notre nature ne soit plus humaine mais divine? Des milliers? Plus vraisemblablement un million. Sachant que les échecs seraient quotidiens, le Sauveur a payé un prix infini pour nous donner autant de chances qu'il le faudrait pour réussir notre mise à l'épreuve terrestre. Il arrive souvent que l'opposition qu'il permet nous semble insurmontable, voire presque impossible à supporter. Pourtant, il ne nous laisse pas sans espoir. Pour que notre espérance reste forte face aux épreuves, la grâce du Sauveur est toujours prête est toujours présente. Sa grâce est un moyen divin de recevoir de l'aide ou de la force, un pouvoir habilitant qui permet aux hommes et aux femmes d'obtenir la vie éternelle et l'exaltation après avoir fait eux-mêmes tous les efforts possibles. Sa grâce et son œil aimant sont sur nous tout au long de notre voyage, tandis qu'il inspire, allège les fardeaux, fortifie, délivre, protège, guérit et secourt son peuple, même quand il trébuche sur le chemin étroit et resserré. Le repentir est le don de Dieu toujours disponible, qui nous permet de passer d'échec en échec, sans perdre notre enthousiasme. Le repentir n'est pas son plan de secours pour le cas où nous échouerions. Le repentir est son plan, sachant que nous échouerons. L'évangile est un évangile de repentir, et comme le président Nelson l'a dit, ce sera un programme de toute une vie. Dans ce programme de repentir de toute une vie, la Sainte Cène est la façon que le Seigneur a désignée pour nous fournir un accès continuel à son pardon. Si nous la prenons le cœur brisé et l'esprit contrit, il nous offre chaque semaine son pardon à mesure que nous progressons d'échec en échec sur le chemin des alliances. Car a dit le Seigneur, malgré leurs péchés, mes entrailles sont remplies de compassion pour eux. Mais combien de fois nous pardonnera-t-il? Combien de temps dure sa longanimité? Un jour, Pierre a demandé au Sauveur, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Probablement, Pierre pensait-il que 7 était un nombre suffisamment grand pour souligner la folie de pardonner trop de fois et que la générosité a ses limites. En réponse, le Sauveur dit essentiellement à Pierre de ne même pas compter, de ne pas fixer de limite au pardon. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il est évident que le Sauveur ne fixait pas une limite supérieure à 490. Cela équivaudrait à dire que prendre la Sainte Cène se limite à 490 fois, puis que la 491e fois, un contrôleur céleste intervient et dit, je regrette beaucoup, mais ta carte de repentir vient d'expirer. À partir de maintenant, tu te débrouilles. Le Seigneur a utilisé le calcul de 70 fois 7 fois comme une métaphore de son expiation infinie, de son amour illimité et de sa grâce inépuisable. Oui, toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. Cela ne veut pas dire que la Sainte Cène devient un permis de péché. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur a inclus cette expression dans le Livre de Mormon. Mais aussi souvent qu'ils se repentaient et recherchaient le pardon avec une intention réelle, ils étaient pardonnés. Une intention réelle implique un effort sérieux et un changement véritable. Changement est le mot principal que le guide des Écritures utilise pour définir le repentir. Changement dans l'esprit et le cœur qui provoque une nouvelle attitude vis-à-vis de Dieu, de soi-même et de la vie en général. Ce genre de changement entraîne une progression spirituelle. Alors, notre succès ne consiste pas à passer d'échec en échec, mais à progresser d'échec en échec sans perte d'enthousiasme. En ce qui concerne le changement, réfléchissez à cette pensée. Les choses qui ne changent pas restent les mêmes. Cette palissade n'est pas destinée à offenser votre intelligence, mais elle a la sagesse profonde de Boyke Packer qui a ajouté, et quand nous avons fini de changer, nous avons fini de progresser. Comme il n'est pas souhaitable d'arrêter de progresser avant de devenir semblable au Sauveur, nous devons continuer de nous relever chaque fois que nous chutons, avec le désir de continuer à avancer en dépit de nos faiblesses. Dans notre faiblesse, il nous rassure. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est qu'avec la photographie en accéléré ou les courbes de croissance que nous pouvons discerner notre croissance physique. De même, notre croissance spirituelle est habituellement imperceptible, sauf quand nous avons le recul du temps. Il serait sage de jeter un regard introspectif à travers cette lentille pour prendre conscience de notre progression et nous inciter à marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite. Je suis éternellement reconnaissant de la bonté, de la patience et de la longanimité aimante de nos parents célestes et du Sauveur, qui nous accorde d'innombrables secondes chances sur le chemin du retour en leur présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions le Mormon Tabernacle Choir de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Neil Anderson, du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Il vit mon Rédempteur ». Ensuite, Marc Bassett, des 70, fera la prière de clôture. J'ajoute ma bienvenue à frère Gong et frère Suarez, à la fraternité inégalée du Collège des Douze. En soutenant Russell Nelson comme prophète du Seigneur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons pris part à une assemblée solennelle que Dieu a décrétée. Solennelle parce que les événements de l'heure écoulée ont été prévus dans les cieux avant que le monde n'existe. Le Seigneur Jésus-Christ, qui dirige son œuvre, nous a aujourd'hui, par l'intermédiaire du président Eyring, présenté son prophète, son dirigeant oint, à nous, son peuple d'alliance, nous permettant de manifester publiquement notre volonté de le soutenir et de suivre ses recommandations. J'aimerais ajouter aux millions de membres qui ne sont pas ici dans le centre de conférence que l'Esprit du Seigneur dans ce bâtiment, pendant le soutien du président Nelson, a été exactement comme nous aurions pu l'anticiper. Plein de pouvoir spirituel en abondance. Mais notre assemblée commandée par les cieux ne se trouve pas uniquement dans ce centre de conférence, mais dans le monde entier, dans des églises en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, dans des foyers en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Europe, sur des terrasses abritées dans le Pacifique et dans les îles de la mer. Cette assemblée se trouve dans tout endroit du monde où vous puissiez être, même si votre connexion n'est que le canal audio de votre smartphone. Nos évêques n'ont pas eu à compter nos mains levées, mais elles ont sans aucun doute été notées dans les cieux, comme notre alliance l'est avec Dieu. Et notre geste est inscrit dans le livre de vie. C'est le Seigneur lui-même qui choisit un prophète. Il n'y a pas de campagne électorale, pas de débat, pas de manœuvre pour obtenir le poste, pas de dissension, de méfiance, de confusion ni de commotion. Je confirme, moi aussi, que les pouvoirs du ciel étaient présents avec nous dans la salle haute du temple, quand nous avons entouré dans la prière le président Nelson, et avons ressenti l'approbation indéniable du Seigneur le concernant. La sélection du président Nelson pour servir en tant que prophète de Dieu a été faite il y a bien longtemps. Les paroles du Seigneur adressées à Jérémie s'appliquent également au président Nelson. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il y a 3 ans, frère Nelson, à 90 ans, était 4e par ordre d'ancienneté et 2 des 3 apôtres qui le précédaient étaient plus jeunes que lui. Le Seigneur qui contrôle la vie et la mort choisit son prophète. À 93 ans, le président Nelson jouit d'une santé étonnante. Nous espérons qu'il soit avec nous pendant une autre décennie ou deux. Mais pour l'instant, nous essayons de le convaincre de ne pas s'approcher des pistes de ski. Bien que nous soutenions le prophète comme étant loin du Seigneur, qu'il soit bien clair que nous n'adorons que Dieu, notre Père Céleste, et son Fils divin. C'est par les mérites, la miséricorde et la grâce de notre Sauveur, Jésus-Christ, que nous pourrons retourner un jour en leur présence. Néanmoins, Jésus a enseigné une vérité importante concernant les serviteurs qu'il nous envoie. Il a dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Le rôle le plus important du prophète du Seigneur consiste à nous faire connaître le Sauveur et à nous conduire à lui. Il existe de nombreuses raisons logiques de suivre le président Nelson. Même les personnes qui sont du monde le considèrent comme brillant. Comme Frère Stevenson l'a expliqué, il a été médecin à 22 ans, un chirurgien cardiaque estimé et un pionnier renommé du développement de la chirurgie à cœur ouvert. D'autres personnes reconnaissent sa sagesse et son jugement. 9 décennies d'apprentissage sur la vie et la mort, de vie altruiste, passée à aimer et à enseigner les enfants de Dieu partout dans le monde. Et l'expérience acquise en ayant 10 enfants, 57 petits-enfants et 118 arrière-petits-enfants. Ce dernier chiffre change fréquemment. Un arrière-petit-fils est né mercredi dernier. Les personnes qui le connaissent bien diraient que le président Nelson a fait face aux difficultés de la vie avec foi et courage. Lorsque le cancer a emporté sa fille Emily à 37 ans, laissant un mari aimant et 5 jeunes enfants, je l'ai entendu dire. J'étais son père, médecin et apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai dû incliner la tête et admettre que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien que nous admirions toutes ces nobles qualités, nous suivons le président Nelson parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé et l'a désigné pour être sa sentinelle sur la tour. Carcassonne est une remarquable ville fortifiée de France qui date du Moyen-Âge. Des tours élevées surplombant les murs protecteurs ont été bâties pour les sentinelles qui restaient nuit et jour, les yeux rivés au loin, guettant l'ennemi. Lorsque l'une d'elles le voyait approcher, sa voix d'avertissement protégeait les habitants de Carcassonne des dangers imminents qu'ils ne pouvaient voir. Un prophète est une sentinelle sur la tour qui nous protège de dangers spirituels que nous ne voyons peut-être pas. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, « Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Nous parlons souvent de la nécessité de suivre le prophète, mais réfléchissez à ce fardeau pesant que le Seigneur place sur son prophète. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant et que ce méchant meure dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Nous acceptons le président Nelson comme nous aurions accepté Pierre ou Moïse si nous avions vécu à leur époque. Dieu dit à Moïse, « Va donc, je serai avec ta bouche. » Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Nous écoutons le prophète du Seigneur avec la foi que ses paroles sortent de la propre bouche du Seigneur. Est-ce de la foi aveugle? Non. Nous avons tous un témoignage spirituel de la véracité du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons choisi, de notre propre volonté, de lever la main ce matin pour affirmer notre désir de soutenir le prophète du Seigneur par notre confiance, notre foi et nos prières, et de suivre ses recommandations. En qualité de saint des derniers jours, nous avons le droit de recevoir un témoignage personnel que l'appel du président Nelson vient de Dieu. Bien que ma femme Cathy le connaisse personnellement depuis près de 30 ans et n'ait aucun doute quant à la divinité de son appel, après sa mise à part, elle a commencé à lire tous ses discours de conférence générale des 34 dernières années, en priant pour recevoir une confirmation encore plus profonde de son rôle de prophète. Je vous promets que ce témoignage supplémentaire vous sera donné si vous le recherchez humblement et dignement. Pourquoi sommes-nous si disposés à suivre la voie de notre prophète? Pour les personnes qui recherchent diligemment la vie éternelle, la voie du prophète apporte la sécurité spirituelle dans un monde très agité. Nous habitons une planète où un million de voix vocifèrent. L'Internet, nos smartphones, une panoplie limitée de loisirs, cherchent tous à attirer notre attention et à nous influencer fortement dans l'espoir que nous achèterons leurs produits et que nous adopterons leurs standards. Cet assortiment apparemment infini d'informations et d'opinions nous rappelle les avertissements scripturaires de ne pas être flottant, agité par le vent et vaincu par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Ancrer son âme au Seigneur Jésus-Christ nécessite que nous écoutions les personnes qu'il envoie. Suivre le prophète dans un monde de tumulte, c'est comme être enveloppé dans une couverture chaude et réconfortante par un jour de froid glacial. Nous vivons dans un monde de raison, de débat, d'arguments, de logique et d'explications. Se poser des questions est positif dans bien des domaines de notre vie. Cela permet à nos facultés intellectuelles de guider une multitude de décisions et de choix quotidiens. Mais la voix du Seigneur nous arrive souvent sans explication. Bien avant que des universitaires aient étudié l'impact de l'infidélité sur les conjoints et les enfants confiants, le Seigneur a déclaré « Tu ne commettras point d'adultère ». Au-delà du seul intellect, nous chérissons le don du Saint-Esprit. La voix du prophète, bien qu'elle soit douce, sera souvent une voix qui nous demandera de changer, de nous repentir et de retourner au Seigneur. Si nous devons rectifier le tir, ne tardons pas. Et ne vous alarmez pas si la voix d'avertissement du prophète contredit l'opinion populaire du jour. Les non-croyants, mécontents et moqueurs profèrent toujours des railleries dès que le prophète s'exprime. Si vous suivez humblement les recommandations du prophète du Seigneur, je vous promets un surcroît de sécurité et de paix. Ne soyez pas surpris si parfois vos opinions personnelles ne sont pas, au départ, en harmonie avec les enseignements du prophète du Seigneur. Ce sont des moments d'apprentissage, d'humilité, où nous nous mettons à genoux en prière. Nous avançons avec foi, avec confiance en Dieu, sachant qu'avec le temps, nous recevons plus d'éclaircissements spirituels de la part de notre Père Céleste. Un prophète a décrit le don incomparable du Sauveur comme étant la volonté du Fils, englouti dans la volonté du Père. En fait, la soumission de notre volonté à Dieu n'est pas du tout une capitulation, mais le début d'une victoire magnifique. Certains essaieront de disséquer exagérément les paroles du prophète, sans réussir à déterminer quelle partie représente sa voix de prophète et quelle autre son opinion personnelle. En 1982, 2 ans avant d'être appelé autorité générale, le président Nelson a dit « Je ne me demande jamais à quel moment est-ce que le prophète parle en tant que prophète. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux lui ressembler davantage. » Il a ajouté « Ma philosophie consiste à arrêter de mettre des points d'interrogation au bout de déclarations du prophète. » et à y mettre des points d'exclamation. Voilà comment un homme humble et spirituel a choisi de structurer sa vie. Maintenant, 36 ans plus tard, il est le prophète du Seigneur. J'ai personnellement découvert que si j'étudie les paroles du prophète de Dieu avec une prière dans le cœur, conformant spirituellement avec soin, et avec patience ma volonté à ces enseignements inspirés, ma foi au Seigneur Jésus-Christ grandit toujours. Si nous choisissons de mettre ces conseils de côté et décidons que nous en savons plus long que lui, notre foi en souffrira et notre perspective éternelle sera obscurcie. Je vous promets que si vous continuez résolument à suivre le prophète, vous aurez une plus grande foi au Sauveur. Le Sauveur a dit, tous les prophètes ont témoigné de moi. Un prophète ne se tient pas entre vous et le Sauveur. Il se tient à côté de vous et indique le chemin qui mène au Sauveur. La plus grande responsabilité d'un prophète et le plus grand cadeau qu'il nous fait sont son témoignage sûr, sa connaissance certaine que Jésus est le Christ. Comme Pierre de jadis, notre prophète déclare, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un jour futur, lorsque nous réfléchirons à notre vie dans la condition mortelle, nous nous réjouirons d'avoir vécu sur terre à l'époque d'un prophète vivant. Ce jour-là, j'espère que nous pourrons dire, nous l'avons écouté, nous l'avons cru, nous avons étudié ses paroles avec patience et avec foi, nous avons prié pour lui, nous l'avons soutenu, nous avons été suffisamment humbles pour le suivre. Nous l'aimions. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur, et que le président Nelson est le prophète oint du Seigneur sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste, à la fin de cette première session d'une conférence générale mondiale, nous exprimons notre reconnaissance pour les choses que nous avons entendues, particulièrement celles que nous avons ressenties. Nous te demandons, Père, de nous aider d'agir en conséquence et de faire ce qui nous mènera plus près de toi. Nous sommes spécialement reconnaissants, Père, pour cette assemblée solennelle, pour le privilège et la bénédiction de pouvoir lever notre main et unir nos cœurs en soutenant notre prophète bien-aimé, frère Nelson, ainsi que ses conseillers et les 12. Nous aimons notre prophète. Nous sommes reconnaissants pour les sentiments que nous avons eus pendant que nous avons levé la main et reconnu ta volonté et nous nous sommes engagés envers toi. Nous te prions, Père, de bénir nos cœurs qu'ils soient unis tandis que nous suivons nos dirigeants, que nous puissions devenir les enfants de l'Alliance. Nous t'aimons et nous t'exprimons notre reconnaissance pour cette occasion sacrée et particulièrement pour ton Fils, pour sa vie, son sacrifice et la connaissance que nous avons de sa résurrection. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.